Excellent. Alors, bon matin à tous et chacun et bienvenue à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières. Heureux de vous accueillir dans ce lieu où on désire être fidèle à prêcher la parole de Dieu et que quand vous prenez le temps de vous déplacer, que le Seigneur vous encourage, que vous rencontrez des croyants pour vous encourager dans la foi, que vos enfants sont bien servis avec des services à l'enfance qui les pointent à Jésus. Et que vous ne repartez jamais de ce lieu sans que le Seigneur ait rencontré votre cœur d'une façon ou d'une autre. Amen. Et c'est ma prière pour vous ce matin que le Seigneur puisse vous encourager. Je vous rappelle, la semaine prochaine, notre offrande spéciale, et pour ceux qui sont moins familiers avec notre offrande spéciale annuelle qu'on appelle offrande d'amour, alors au mois d'avril-mai, c'est toujours le moment où on invite les gens à une offrande spéciale qui est à l'extérieur du budget, qui va toute pour vraiment qu'est-ce qui est évangélisation, mission et aussi jeunesse. Tous les sous vont dans cette direction-là. Donc, à chaque sou que vous donnez, ça va vers la mission. Plus de la moitié s'en va vers l'évangélisation, la radio, toutes sortes d'activités d'évangélisation qui se font dans l'Église. Et entre autres, une cette année qui va s'ajouter en début de décembre. On aura une présentation spéciale de Noël. On aura une invitation spéciale à ouvrir à tous qui sera une activité vraiment ouvert au grand public avec un grand déploiement. Je vous en dis pas plus, mais tous ces sous vont pour toutes sortes de choses comme ça, la fête foraine en septembre qu'on aime beaucoup, etc. Donc, je vous invite à prier là-dessus, à vraiment mettre ça dans la prière ensemble, en couple, en famille. Seigneur, qu'est-ce qu'on peut te donner pour exprimer notre appréciation, reconnaissant qu'on vit dans l'abondance, que le Seigneur est bon, on a une stabilité de travail. Alors que dans beaucoup de pays, vous savez, tu sais jamais si ton employeur va te donner ta paye nécessairement la semaine prochaine. Et il faut toujours, tu prévois l'imprévu continuellement. Alors, une grande fragilité. Et nous, on a une stabilité d'emploi, une stabilité de travail, de revenus, santé. Soyons reconnaissants et voilà une belle occasion pour l'exprimer au Seigneur. La semaine dernière, j'étais absent et j'étais au camp Patmos. Alors, comme beaucoup de camps, ce mois-ci, plusieurs camps ouvrent leurs portes dans des cas de travail pour se préparer à l'été. Et donc, mon épouse est directrice adjointe au camp Patmos. Donc, on a passé la longue fin de semaine au camp à travailler. On était 60, 65 à ouvrir le camp. Évidemment, moi, j'étais sur la plage pour ouvrir les installations aquatiques. D'autres construisaient des maisons. D'autres installaient des toits. J'ai des mots comme ça qui se bousculent des fois, là. Et c'était vraiment beau, une belle ambiance. Je vous invite à considérer les camps chrétiens cet été. Peut-être que vous n'avez jamais été dans un camp chrétien en famille, en couple. Il y a des camps pour les adolescents, des camps pour les enfants, autant ici dans la région avec le Mont à Villa du Carmel que le camp des Bouleaux, camp Patmos, qui sont nos camps de notre famille d'église. C'est des belles opportunités, des fois, d'aller dans un camp se ressourcer, prédication à tous les jours, communion avec des gens qu'on rencontre, nos enfants ont des services à l'enfance. Et si vous êtes grands-parents, c'est une belle occasion de payer un camp de vacances à vos petits-enfants, d'aller avec vos enfants et leurs enfants. Il y a plusieurs couples qui viennent, là, qui ont 70 ans et plus. Là, ils viennent avec leurs enfants, qui sont rendus avec des adolescents. Ils se retrouvent un clan ensemble d'une semaine. C'est vraiment, vraiment agréable. Il y a des fermettes, il y a des plages, toutes sortes d'activités qui favorisent vraiment le temps en famille. Profitez-en et planifiez une retraite spirituelle pendant vos vacances dans un camp chrétien. Ça sera vraiment un investissement que vous ne regretterez pas. Je vous invite ce matin à prendre vos Bibles et aller dans le livre de Jean au chapitre 13. Jean, chapitre 13. Ce matin, je vous invite à une scène irréaliste. Irréaliste. On ne saisit pas pleinement la scène qu'on va lire ce matin. Et pour vous illustrer pourquoi je dis ça, imaginez ce matin, je lisais, tous les matins, je lis souvent des nouvelles sur ce qui se passe en Ukraine, avec la Russie, avec ce qui se passe aussi en Israël, en Iran. Et imaginez là une scène totalement irréaliste. Je sais que vous allez dire, voyons, Joël, c'est des niaiseries que tu dis là, mais écoutez-moi quand même. Là. Mais vous avez le président Trump qui décide de prendre son grand avion, sa grosse armée, et qui se déplace à Téhéran pour aller au pied du grand Ayatollah Khomeini, mais en fait son fils Akbar, j'oublie son nom exactement, là, et qui prend une bassine et vient lui laver les pieds en signe de respect pour conclure une alliance avec l'Iran. Quelqu'un peut imaginer une scène comme ça? Monsieur Trump qui lave les pieds. Il me semble que ça serait une scène agréable à voir. Hein? Et là, qui lave les pieds de celui qui voit comme son ennemi juré. Le chef spirituel de l'Iran et qui lui lave les pieds en guise de bonne volonté pour signer un traité de paix. Est-ce qu'on va voir ça dans notre vivant?
Non.
Non, 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 ça n'arrivera juste pas. M. Trump préfère qu'une bombe nucléaire y tombe sur la tête que de faire une chose comme ça, c'est sûr et certain, là. Ou bien, imaginez la scène, aussi irréaliste, que M. Poutine se rend à Kiev. Hein? M. Poutine qui vient à Kiev pour dire à M. Zelensky, « Je vais te laver les pieds, je vais te demander pardon. Je regrette mon agression contre ton pays. » Et qui lui lave les pieds. Hey, quelle scène, imaginez! Ça renverserait l'économie mondiale, ça renverserait les mœurs, l'idée de voir de ces hommes les plus puissants du monde qui ont fait du mal à son voisin ou qui sont en tension avec leur voisin pour venir leur laver les pieds et signer une entente de principe de paix. Personne ici a l'idée même de prier pour une chose comme ça. Amen! On est sur terre. On n'est pas encore dans les cieux. Et on est dans un monde d'humanité, d'hommerie. Mais j'aimerais vous dire, ce qu'on va lire ce matin est beaucoup plus grand que ces deux scènes irréalistes. La scène qu'on va lire ce matin est celle du Créateur, du Dieu Tout-Puissant, qui a créé tout ce que l'on connaît, qui contrôle le temps, qui connaît l'avenir, qui a trouvé un moyen pour un plan de sauvetage pour sauver l'humanité. Et là, le Créateur se fait homme, marche parmi nous. Et là, ce Créateur, Jésus, se place devant ses disciples et leur lave les pieds. Un juif ne voulait pas faire ça à son compatriote. Si tu avais un esclave dans la maison non-juif, c'est à lui que tu lui demandais de faire une chose comme ça. Et souvent même, le linge était là proche de la bassine pour que tu le fasses toi-même. Mais Jésus décide de faire cet acte. Plus encore, allons un pas plus loin, OK? Là, on le voit de la perspective du Créateur qui fait ça envers nous, être pécheurs. Allons plus loin. Jésus l'homme va être dans une crise d'angoisse après ces fameux chapitres 13, 14, 15, 16, 17, où ce que le dernier souper, où ce qu'il instruit ses disciples. Il est dans une angoisse extrême. Alors, on peut imaginer qu'il est déjà dans de l'angoisse à ce moment-là, avant le souper. Jésus sait la souffrance qu'il va avoir. Il est seul à comprendre ce qu'il va vivre. Il sait toute la souffrance, il comprend que ses disciples ne comprennent pas. Il sait qu'il y a un homme parmi les ceux qui va laver les pieds, qui va le trahir. Fait que c'est un humain qui sait qu'il va être trahi, un humain qui sait qu'il va souffrir, un humain qui va faire une crise d'angoisse à en saigner. Et qui dans tout cet état d'âme-là, là, dans ses derniers moments et son legs, humainement, dans toute cette émotion-là, là, où est-ce qu'on devrait être replié sur soi, Jésus va laver les pieds de ses disciples comme hors d'œuvre à son enseignement, comme hors d'œuvre, comme préliminaire à tout ce qu'il va leur enseigner pendant toute cette soirée-là, comme étant ses derniers actes, ses dernières paroles qu'il va léguer à ses disciples. On ne saisit pas pleinement ce que Jésus est en train de faire comme homme et comme Dieu incarné, homme, comme signe d'humilité profonde qu'il fait comme geste. Et j'aimerais ce matin qu'on l'accepte et qu'on l'accueille avec un plus grand réalisme ce matin. C'est pour ça que je vous le décris ici. Lisons ces quelques versets ensemble avant d'aller plus loin. Chapitre 13, et on va regarder les versets 1 jusqu'à 5 ou 6, je vais voir. Chapitre 13, Jean. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant, soulignez ce mot-là ici, là, sachant, que son heure était venue. Si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, il savait que ce n'est pas encore son heure quand il faisait la noce de Cana. Puis sa mère, il parle, c'est pas encore mon heure. Là, son heure, elle est venue. Et c'est une expression utilisée dans Jean régulièrement. L'heure de passer de ce monde au Père. Lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aime jusqu'à l'extrême. Au cours d'un repas, lorsque le diable avait jeté au cœur de Judas, fils de Simon, la pensée de le livrer, sachant que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu, Jésus se leva de table, déposa son vêtement et prend un linge dont il se ceint. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint, donc qu'il avait mis autour de sa taille. On va prier. Papa Céleste, ce matin, c'est un texte qui est dur pour nous à pleinement saisir et on te prie que par ton esprit, tu nous éclaires ce matin. Aide-nous à saisir le cœur de Jésus qu'on lit dans ces versets. Aide-nous à saisir le dilemme que vit Pierre, qui est notre dilemme, qui est notre réponse, notre résistance à ce que Jésus fait. Seigneur, touche nos cœurs à saisir les vérités qui vont changer notre vie dans ce texte. Ouvre nos yeux à ton cœur, ô Éternel, ton cœur ouvert par l'acte de Jésus, et qu'on puisse saisir ce texte comme jamais auparavant. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, on est dans cette série. Jésus t'appelle, répondras-tu? Et on est déjà rendu assez avancé. On va faire 11 personnages. Je crois qu'il nous en reste 4, plus ou moins, oui, 4. Et donc, on en a fait déjà 7. Et je vous rappelle la réponse de Pilate qu'on a vue à part qu'un appel où ce que Jésus, la vérité se présente devant lui et il ne répond pas à cette vérité. Il répond négativement. La femme samaritaine, dont on a vu le Seigneur aller vers elle, et après ça, on a vu Nicodème, où ce que là, c'est Nicodème qui va vers Jésus, ce religieux. 2 rencontres extrêmement différentes, mais tellement enrichissantes, chapitre 3 et chapitre 4 de Jean. On a vu Thomas, où ce qu'on est appelé à une pleine confiance en Jésus, une confiance totale, et confronté à ses questions et nos questions, et le défi de croire complètement en Jésus. On a vu la réponse de Marie également. Marie à la noce de Cana, et on l'a vu, je vous ai amené une bouteille, justement, d'un grand cru, là, des vignes de Cana parmi nous ce matin. Là, je l'ai plus, mais elle était ici il y a juste 2 semaines. Si vous voulez la voir, bien, vous pourrez le demander. Et la semaine dernière, une rencontre inusitée de Jésus qui rencontre une femme qui ne voulait pas une rencontre avec Jésus, mais qui était contente de le rencontrer. Une femme qui était prêt d'être lapidé. Et si vous avez manqué cet enseignement-là, c'était la semaine dernière avec Marco. Cette femme adultère utilisée, une femme objet qu'on utilise pour des fins d'accuser Jésus. On se fout de l'homme qui est dans la situation. C'est la femme qu'on choisit vulnérable et qu'on va lancer devant Jésus comme un appât pour le faire tomber, pour l'accuser. Utiliser une femme en se souciant pas de son cœur, mais Jésus va rencontrer le cœur de ses accusateurs et le cœur de cette femme d'une façon inusitée, que personne d'entre nous aurait imaginé de voir Jésus prendre la balle au bon comme ça. Et là, aujourd'hui, bien, Jésus qui t'appelle, et là, c'est la réponse de Pierre. Et pour apprécier le texte de ce matin, j'aimerais qu'on retourne, on aille un peu plus loin dans le Nouveau Testament, dans le livre aux Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, j'aimerais juste qu'on lise quelques versets avant d'aller plus loin. Philippiens, chapitre 2, dans les premiers versets, j'aimerais vous lire quelques versets qui vont nous aider à apprécier ce qu'on vient de lire brièvement et qu'on va absorber ce matin. Je vous lis Philippiens chapitre 2, verset 3, qui va comme suit. « Ne faites rien par rivalité, rien par désir de gloire, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. » Et ça, c'est dur, hein, humainement. Quel défi pour nous de regarder l'autre avec les yeux de Dieu, avec humilité, donc de se placer bas et de regarder les hauts, les autres, pas de haut, mais de regarder avec hauteur l'autre, estime. Et sur quelle base Paul ose nous donner un tel défi? Bien sûr, Jésus. Et regardez bien ce qu'il dit. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous comme le fait en Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, il s'est mis bas face à ce que nous, on regarde comme standard humain. Il s'est mis très bas, devant obéir jusqu'à la mort sur une croix, la mort la plus honteuse, sur du bois, pendu au bois. Jésus est le modèle. Et Jésus, contrairement à ce que des fois on peut avoir comme sentiment après avoir lu ce texte-là, n'est pas en train de dire de juste laver les pieds des autres. Et certains ont mal compris ce texte et ont porté des traditions dans le catholicisme et dans d'autres groupes. Peut-être certains d'entre vous ont fait partie de des groupes qui se lavaient les pieds annuellement et que c'était une manière de montrer ce texte-là. Et dans une façon de le faire d'une manière pédagogique, une fois c'est une chose, mais de le faire par tradition, qu'est-ce qui arrive? On ne respecte pas l'esprit du texte parce que l'esprit du texte n'est pas axé sur une tradition religieuse, mais nous enseigne sur une attitude à cultiver dans notre vie. Et quand on le rentre dans la tradition, on cultive de l'hypocrisie plutôt que changer notre attitude. Et ce n'est pas comme ça qu'on saisit l'exemple et le mot que Jésus utilise ici, une illustration pour choquer, pour nous saisir et réaliser l'ampleur de l'action de Jésus. Donc, Jésus est l'incarnation de cette humilité dont on est invité à vivre, mais nous ne pouvons pas naturellement, de nos forces humaines, vivre cette humilité. Donc, ce matin, ce n'est pas une prédication sur « soyons humbles ». Non, du tout. En fait, ce matin, c'est cette vérité centrale que je vous énumère. Lorsque nous saisissons véritablement l'amour de Jésus, notre cœur est transformé dans l'humilité, le service et la dépendance en lui. Je le répète. Lorsque nous saisissons véritablement l'amour de Jésus, notre cœur est transformé dans l'humilité, le service et la dépendance envers lui, envers Jésus. Acceptes-tu d'être lavé ce matin? Saisir l'amour de Dieu qui change ta vie. C'est le titre de ce matin. On va regarder trois points ensemble. Le premier, Jésus aime les siens jusqu'à s'abaisser pour eux dans les versets 1 à 5. Il aimait les siens qui étaient dans le monde. Il les aimait jusqu'à l'extrême. Et ici, le mot qu'on utilise pour jusqu'à l'extrême, c'est jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à ce déploiement d'action ici ultime pour montrer l'amour. Et les premiers versets nous montrent le fondement de cet acte de Jésus. C'était motivé par l'amour. Jean est celui qui nous parle le plus d'amour. Le verbe pour amour est utilisé 142 fois dans le Nouveau Testament et plus de 25 fois, juste 25 % est dans ce livre-là de Jean et un autre 25 % de cet usage-là dans 1 Jean. Les deux ensemble et les écrits de Jean au total, c'est 51 % juste pour Jean, là, de nous parler de l'amour de Dieu. L'amour envers l'autre, l'amour reçu de Dieu et l'amour envers Dieu comme réponse et l'amour envers l'autre comme résultat d'avoir été transformé par l'amour de Dieu. 51% des usages, là, c'est Jean. Jean est un homme de cœur touché par l'amour de Jésus. On dit de Jean qu'il était aimé, le disciple que Jésus aima. Jésus a frappé Jean de son amour et Jean est marqué et en parle continuellement et il relate particulièrement les discours de Jésus qui en touchent. Et donc, Jean nous est ce fameux verset populaire, hein, « Car Dieu a tellement aimé le monde. » Il a tellement aimé le monde, vous et moi. » Ben, c'est Jean qui nous donne ce verset-là, des paroles de résumant, dans le fond, les paroles de Jésus et son message dans Jean, chapitre 3, verset 16. Il nous a tellement aimé le Créateur qu'il a envoyé son Fils. Et donc, cette notion d'amour est à la base de l'acte de Jésus. Jésus ne fait pas juste ça pour une illustration de comment être humble. Jésus est en train de répondre naturellement et spontanément. C'est un débordement de l'amour du Père en lui qui se manifeste dans de l'amour pour ses disciples. C'est un débordement. Ce n'est pas une prescription qu'il nous donne ici de se laver les pieds les uns les autres, c'est de vivre cette expérience d'amour de Dieu reçu et qui me transforme et qui m'amène tout à coup à faire spontanément des gestes qui sont considérés comme abaissants pour l'homme, mais qui m'amène à regarder tellement l'autre avec un regard saint, un regard divin, que mon action, mon attitude change et fait des choses qu'on n'aurait pas planifiées, des choses spontanées. Même un homme comme Confucius, il y a de cela très longtemps, a qualifié l'humilité comme étant le fondement solide de toutes les vertus. Mais j'oserais vous dire que l'humilité n'est pas la base. La base de l'humilité, c'est l'amour. L'amour du Créateur, de se savoir aimer profondément, sacrificiellement, d'une façon que l'être humain n'arrive pas à aimer l'un l'autre, par le Créateur chéri, précieux, par celui qui nous a créés et qui va déployer toutes ses forces, toute son énergie pour faire un plan de sauvetage inimaginable, comme nous on imaginerait, si tantôt on a imaginé un plan de sauvetage pour l'Iran, hein, ou pour la guerre entre la Russie et l'Ukraine, d'une façon inimaginable, il va beaucoup plus loin dans son déploiement d'un amour ultime qui nous scie les jambes. Et j'aimerais vous dire ceci, 4 facteurs à considérer dans l'abaissement de Jésus ici. Okay? 4 facteurs à considérer. Le premier est un facteur de timing. Jésus fait cette action-là en sachant le timing. Quand il a fait le miracle à Cana, il savait que ce n'était pas encore son temps. Et donc, il y a des choses qu'il fait, des choses qu'il ne fait pas en rapport avec le timing. Et là, il sait qu'il s'en va. Et dans cette considération du timing, il y a des legs, des choses qu'il veut laisser à ses disciples. Et c'est pour ça que Jean nous raconte, chapitre 13, 14, 15, 16, 17, que les autres livres ne nous donnent pas du déploiement de l'amour de Jésus, oui, au chapitre 13, mais après ça, son enseignement à ses disciples, son legs pédagogique de leçons, de vérité qu'il veut que ses disciples soient équipés à avoir pour vivre la vie chrétienne après la résurrection. Il les prépare au moment aussi où ils vont être vulnérables et que là, il va y avoir la trahison qui s'en vient. Elle n'est pas faite encore. Elle arrive au chapitre après 17. Il les prépare en voyant sa prière, sa dépendance auprès du Père. Il les enseigne sur la joie du croyant qui ne dépend pas des circonstances. Il les enseigne sur la relation avec le Père céleste. Il les enseigne sur plusieurs fronts essentiels à réussir une vie chrétienne. Et c'est dans ce legs-là de timing que là, tout à coup, il donne cet enseignement-là. Il y a une question de timing ici, divin. Et aussi, il savait que ses disciples, en s'en venant vers Jérusalem, il y avait eu, entre autres, encore cette grande discussion, c'est qui est le plus grand parmi nous? Hein? Vous vous rappelez de ça? Luc nous le relate dans le chapitre 22, juste avant les chapitres 23 et 24, sur la mort et la résurrection de Jésus. Et les disciples, en s'en allant vers Jérusalem, n'ont pas encore saisi cette idée-là de se servir les uns les autres. Et Jésus, ici, il y a eu cette discussion-là dans la journée et les journées précédentes en s'en venant. Et dans ce contexte-là, il leur parle par son action. Il leur parle par comment lui se comporte envers eux et ça leur scie les jambes complètement. Rappelez-vous, là, ces disciples-là vont traverser la mort et la résurrection de Jésus et pour le reste de leur vie, ils vont se rappeler que le Créateur a envoyé son Fils unique, que le Fils unique qui est Dieu, qui était là à la création, a lavé humainement dans sa chair leurs pieds. Hey, ça te porte un disciple jusqu'à la mort. Amen. Le Créateur t'a lavé les pieds dans ton humanité et dans son humanité pour venir te rencontrer. Le legs que Jésus laisse ici, là, au chapitre 13, qui va amener toute leur attention à écouter ce qu'il va dire, 14, 15, 16, 17. Et la base pour recevoir ça, c'est l'amour qu'il déploie pour eux. L'ultime amour manifesté ici, là. Donc, c'est vraiment, vraiment important, ce facteur de timing. Et le deuxième facteur, le facteur de l'amour que j'ai déjà mentionné. Troisième facteur, le facteur du cœur, au verset 2, de Judas qui est déjà pris par l'ennemi. Ce n'est pas juste ici, c'est après qu'on le mentionne aussi. Au chapitre 12, au chapitre 14, le cœur de Judas avait été pris par l'ennemi. Et Jésus le sait, mais Jésus va continuer à agir dans son itinéraire malgré que le cœur de ses disciples ait été pris, mais il veut protéger et prendre soin le cœur en faisant cette action. Il prend soin du cœur de ses disciples. Et il donne même une occasion de repentance, ultimement même à Judas, en lui lavant les pieds. Imagine, tu vas trahir le Créateur, il t'a lavé les pieds et il va le trahir. Ça augmente l'odieux de son action, mais ça veut aussi inciter son cœur à la repentance. Il y a une question aussi de facteur de cœur, tout comme nous. Et il y a un facteur d'identité, finalement. Regardez versets 3, 4 et 5. La base, au verset 3, de l'action de Jésus, sachant le timing, sachant qui il est. Il savait où est-ce qu'il s'en va, il savait d'où il vient, et il s'en va vers le Père. Et de savoir tout cela lui donnait le moteur pour faire tout ce qu'il avait à faire. Et vous savez, une des raisons pourquoi parfois on manque d'audace dans la vie chrétienne, que l'Église de Christ manque souvent d'audace, nous oublions qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous oublions notre identité. Jésus, ici, nous dit Jean, connaissait son identité. Et parce qu'il connaissait son identité, il n'y avait pas de problème identitaire. Il n'avait pas besoin de se boffer le torse pour montrer qu'il était fort. Il savait qui il était. Il connaissait sa valeur. Il connaissait surtout sa mission. Et il savait ce que le Père Céleste s'attendait de lui et qu'est-ce que ça lui coûterait et où est-ce qu'il s'en irait après ça. Connaissant son identité, et donc n'étant pas insécure, il pouvait faire des choses que seulement dans une identité forte en Jésus-Christ, nous pouvons faire. Et sa déclaration est forte au verset 3 que Jean nous déclare sur Jésus, sur ce qui le motive. Il parle de son autorité, il lui a donné toutes choses, il parle de son origine, d'où il vient, il est sorti de Dieu, et de son avenir, où est-ce qu'il s'en va, auprès du Père. Mais vous savez, en Jésus-Christ, on a la même identité. Toute autorité m'a été donnée, et donc vous pouvez aller, il nous dit, pour la grande commission. Quand tu sais qui t'a appelé et que tu es un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un fils de Dieu, quand tu sais d'où tu viens, tu connais l'histoire de la création, tu sais que tu es aimé, tu sais qu'il y a un Dieu créateur attentionné qui prend soin de toi, qui a un plan de sauvetage et qui t'a changé ton identité que tu avais perdue par le péché, et que là tu sais où est-ce que tu t'en vas. Si tu saisis ça, tu t'accroches moins au monde présent. Tu es capable d'avoir de l'audace pour Jésus. Tu es fier de lui parce que tu sais qui tu es. Tu n'as pas besoin de prouver qui tu es, tu l'es déjà. Tu n'as pas besoin de le prouver par tes actes. Tu es libre d'être ce que Dieu t'appelle à être si tu sais d'où tu viens, où tu t'en vas, ta valeur et ton origine. Et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir pour agir par la foi dans l'audace que Dieu veut qu'on ait, par la foi pour faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Et ce que Dieu t'a appelé à faire est différent de ton voisin, avec les dons qu'il t'a donnés, les opportunités, le travail, le rayonnement, les gens qu'il t'a confiés à prendre soin. Le pays, la langue qu'il t'a donnée pour rayonner pour lui. Mais ce qui donne de l'audace, frères et sœurs, c'est ce que Jésus avait ici, qui nous décrit au verset 3, et qui lui permet de faire ce qui est dur pour chacun d'entre nous. Se mettre à genoux. Humblement à genoux, s'accroupir et de faire les gestes les plus humbles qui se font parmi nous. Laver les pieds. Laver les choses que les autres ne veulent pas laver. Faire les bassesses de la vie. Quand je sais qui je suis, ce n'est pas un problème pour moi de laver les toilettes. Ce n'est pas ça qui me définit. Vous comprenez? Mais les bassesses de la vie sont dures pour nous quand on a un problème identitaire, quand on ne connaît pas notre valeur propre. Ah non, moi, je ne fais pas ça. Ah non, moi, je ne fais pas ça. Mais si pour Jésus, il n'y a pas de bassesse, combien plus pour nous, lui qui est venu nous laver les pieds, combien plus pour nous. Et donc, c'est ce que je veux que vous reteniez de cette section-là en particulier, les facteurs qui ont amené Jésus ici, le facteur du timing, le facteur de l'amour, le facteur du cœur qu'il veut gagner de ses disciples et le cœur d'un qui est déjà égaré, et le facteur d'identité qui donne toute la force pour procéder à l'action que Jésus va faire ici de laver. L'amour précède l'humilité. L'amour n'est pas un effort moral ou une vertu isolée. C'est le fruit de l'amour de Jésus. Et Jésus a ce fruit parce qu'il a l'amour du Père. Jésus avait besoin de l'amour du Père. J'ai besoin de savoir que je suis aimé par Jésus et le Père céleste. Et que ça vient définir ma sécurité, ma valeur, mon identité. Que le Seigneur imprègne cette vérité dans nos vies. Comme les disciples cette nuit-là, nous avons profondément besoin de cette leçon d'humilité que Jésus donne. L'Église est remplie de l'esprit du monde si facilement, frères et sœurs. Et là, ici, je vous lis une lecture d'un pasteur bien-aimé qui est décédé maintenant, Pasteur Wiersbe, qui le dit si bien avec honnêteté. L'Église est remplie de l'esprit du monde trop souvent. Un esprit de compétition et de critique, de comparaison et de recherche. Les croyants se disputent pour savoir qui est le plus grand comme les disciples. Et nous grandissons en connaissance, mais souvent en manque de grâce. Et c'est Andrew Murray qui a écrit un livre sur l'humilité qui dit ceci, « L'humilité est le seul sol dans lequel la grâce prend racine. Et le manque d'humilité est l'origine de chaque défaut et de chaque échec. Le manque d'humilité est à l'origine de chaque défaut et de chaque échec. L'humilité et l'amour ont poussé Jésus à servir ses disciples. Et donc, le texte peut dire avec certitude, il les aima au plus haut point, à l'extrême, jusqu'à la fin, jusqu'au bout, ultimement, avec justesse. Mais Pierre, vous savez, ne comprend pas ça. Et pour vous et moi, nous, on est l'outsider, on connaît l'histoire. Fait que là, on comprend, là. Mais plaçons-nous à la place de Pierre et regardez ses réactions, combien elles correspondent à nos réactions. On va les lire présentement parce que là, ici, maintenant, l'amour de Pierre est dur à saisir. L'amour de Dieu est dur à saisir et il va résister à ce que Dieu lui fait vivre par Jésus. On va lire ces versets qui vont suivre au verset 6. Il arriva ainsi à Simon-Pierre et lui dit, « Toi, Seigneur, me laver les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne peux le savoir à présent, mais par la suite, tu comprendras. » Et ça, c'est intéressant ici. Jésus montre de la grâce. Je comprends que tu ne le saisis pas tout, là. Mais fais-moi confiance. Tout ça ici te prépare. Et ça va être dit dans 3, 4, 5 fois dans le chapitre. Il y a des choses que je fais ici pour vous préparer à ce qui s'en vient. Là. Vous allez comprendre. Et je comprends que présentement, c'est dur à saisir. Fait, soyons gracieux avec Pierre. Hein? Jésus l'est avec lui. C'est tough à saisir ce qu'il est en train de faire ici et de donner comme message ultimement à ses disciples. Parce que l'acte est tellement choquant. Parce que normalement, tu ne ferais même pas laver ton confrère juif qui est esclave pour toi. Tu ne le ferais pas laver un autre juif. Ça, tu laissais ça même juste à un serviteur étranger d'une autre nation. Tu ne faisais pas ça pour ton collègue juif. Envers un homme pouvait le faire envers sa femme, tu sais, mutuellement, ou les enfants vers leurs parents. Mais la plupart du temps, il y avait une serviette là, puis tu les essuyais à tes pieds toi-même, là, pour le commun des mortels. Là, fait que ce que Jésus va faire va être culturellement nécessaire, mais inconfortable. Nécessaire parce qu'évidemment, vous et moi, on ne se lave pas les pieds parce qu'on a des bas, on a des chaussures confortables. Fait quand on arrive chez les gens, on n'est pas gêné de marcher nu-pieds sur la moquette. Mais dans cette époque-là, ben, tu avais des sandales, il y avait beaucoup de poussière, c'était pas des beaux chemins avec de l'asphalte, il y avait plein de roches, de la poussière, puis là, s'il y avait un petit peu de pluie ou d'humidité, ben là, ça collait aux pieds. Fait que là, tu arrivais avec les pieds dégueulasses. Fait que tu peux pas juste rentrer chez quelqu'un, marcher sur sa moquette, même dans sa maison, sans avoir lavé tes pieds. Fait qu'il y avait toujours une cruche d'eau, une bassine, une place pour se laver. C'est faisait partie des mœurs. C'était normal. Mais c'était pas le maître de la maison qui allait te laver les pieds normalement. Encore moins le maître de l'univers. Il faut comprendre ici pourquoi il est choqué et il n'arrive pas à le saisir. Alors, Pierre lui dit, « Me laver les pieds, jamais. » C'est la manière que ça a été traduit, mais il dit, « Certainement, tu ne me laveras pas les pieds. » C'est un double négatif qui est mis là pour exagérer, pour dire, « C'est sûr, 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 tu ne laveras pas les pieds. » Il n'y a pas question. Et là, Jésus lui répond, « Si je ne te lave pas, tu ne peux pas avoir une part avec moi. » Et là, on voit ici Jésus qui fait un peu comme l'eau de vie, hein? Quand il parle du pain de vie, on voit qu'il là va parler de quelque chose de littéral qui se passe là, mais que ses paroles vont transcender une vérité spirituelle qui va beaucoup plus loin que la simple action que là. Vous me suivez? Fait que là, il va dire, « Je te lave les pieds là, mais... » Là, il dit, « Si je te lave pas les pieds pour rentrer chez nous, tu pourras pas aucune part. Ah, » OK, ben tu peux là... Mais c'est pas juste la part... C'est la part éternelle, c'est la part de ce qui sont les promesses de Jésus, mais ce n'est pas juste laver ses pieds qu'on comprend ici, là. Okay? Il y a quelque chose de plus loin, on va en parler d'un instant, mais on voit Jésus qui transcende l'action locale pour une vérité spirituelle beaucoup plus grande, beaucoup plus haute. Et là, Simon-Pierre lui dit, « OK, ben OK, super, Seigneur, ben, lave-moi la tête, les mains, tout le kit. » Parce qu'évidemment, Pierre, hein, quand il a compris quelque chose, ou que c'est un impulsif, il est spontané. Fait que là, il va de rien pendant tout, jamais de la vie, puis là, il dit une phrase, puis hey, « Écoute, ben lave-moi au complet. » T'es comme, OK, c'est du Pierre tout craché, ça. C'est comme du tout ou rien. Tu sais, là, je m'objecte Jésus, je résiste, puis après ça, ben là, c'est comme, je me couche à terre, puis vas-y, lave-moi comme tu veux. Tu sais, bon, il n'a pas compris. On comprend qu'il n'a pas compris toute l'idée, mais on voit ici spontanément notre Pierre, hein? Et Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a nul besoin d'être lavé. Fait que, tu sais, quand tu as pris ta douche, ben, tu n'as pas besoin d'être lavé, parce que là, il va utiliser un mot différent de laver les pieds que se baigner. Fait qu'il dit, si tu te baignes, tu as lavé tout ton corps, bien, il dit, tu n'as pas besoin de leur prendre une douche en rentrant chez nous. Tu as juste besoin du lavement des pieds. C'est ça qui va te rendre propre. Parce que tu es déjà propre dans l'ensemble du corps, mais là, tes pieds ont ramassé la poussière en marchant dans ce monde. Fait que là, il faut que tu les laves avant que tu rentres en dedans. Fait que Jésus explique ça. Celui qui s'est baigné n'a nul besoin d'être lavé, car il est entièrement pur sur l'ensemble du corps. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. Et là, tout à coup, il lance un signal qu'il y en a un qui est différent, mais ils ne comprennent pas, évidemment. Il savait. En effet, qui allait le livrer? Et c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Fait que Jean prend le temps de nous expliquer cette petite phrase-là ici. Pierre résiste à être lavé par Jésus. Et finalement, il ne me lave pas tous les pieds, mais aussi la tête, les mains, puis etc. C'est probablement ici le vrai cœur émotionnel. On l'a vu la base, mais là, c'est le vrai cœur émotionnel pour nous. Alors qu'on lit cette histoire-là, de voir la réaction de Pierre, le dialogue. Et son dialogue, dans le fond, il y a quelque chose qui émane de ce dialogue, de cette résistance-là, qui exprime notre dialogue avec Dieu, qui exprime aussi notre résistance avec Dieu. Parce qu'accueillir l'humilité de Jésus, son amour, c'est difficile. Parce qu'il n'y a absolument rien de méritoire dans ce que Jésus fait et que tu vas recevoir de sa part. Il n'y a rien que tu mérites. Il faut que tu acceptes que tu as besoin d'être lavé par lui, sinon tu ne feras pas laver par lui. Il faut que tu acceptes son identité. Il faut que tu acceptes que ça n'a pas d'allure que le Créateur, que Jésus, le Messie, soit en train de faire ça. Et pour nous, le message de l'Évangile se répond de cette façon-là, de manière générale, dans l'être humain. Hein? Le message de l'Évangile, dont Jésus manifeste l'attitude ici, il y a cette résistance au message de grâce de l'Évangile. Il y a cette résistance d'accueillir l'humilité du Créateur qui semble pas correspondre à nos valeurs humaines de ce qu'un Dieu devrait faire pour imposer son autorité, sauver l'être humain. Il devrait y avoir un moyen aussi pour moi de mériter cet accueil-là, de mériter ce lavement-là, un moyen pour moi d'y travailler. Mais là, quand tu reçois le lavement des pieds de Jésus, tu dois accepter qu'il n'y a aucun moyen pour toi d'être lavé. Il n'y a aucun moyen pour toi de vraiment être lavé de tes péchés, de ta vie. Accepter le moyen que Dieu a donné à travers Jésus est difficile pour l'être humain aussi. Ça vient virer de bord toutes nos valeurs. Et c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'appelés et peu de gens qui manifestent une réponse favorable à l'Éternel, manifestant qu'ils ont été choisis de Dieu. La majorité résiste. Jésus, son message... L'humilité dans laquelle et l'amour dans lequel le Créateur a créé ce moyen de sauvetage est choquant. Et la manifestation de Jésus, même à ses propres disciples qui croient en lui, est choquante. Et ça amène ce genre de résistance-là, vous savez, de la part de l'être humain. Et peut-être vous êtes encore présentement ce matin, vous écoutez ici, en ligne ou en différé, et vous êtes en résistance. Vous êtes amadoué par le message de Jésus, vous êtes attiré de lui, mais de là à mettre le genou à terre, de là à allonger vos pieds humblement pour être lavé, c'est autre chose. C'est autre chose. Il y a une résistance. Il y a une réponse qui tarde de venir. Et j'aimerais juste faire quelques déclarations ici sur ce que Jésus dit. Juste avant, je viens de me rappeler un verset que Pierre, l'apôtre Pierre, vous savez, a écrit deux épîtres, n'est-ce pas? Et a influencé l'évangile selon Marc aussi. Mais deux épîtres ont été écrits par Pierre. Et qu'est-ce que Pierre dit dans la fin de la première épître? Il dit ceci au chapitre 5. « Revêtez-vous d'humilité. » Quand tu lis Pierre qui dit « Revêtez-vous d'humilité » et que tu lis cette histoire-là, là, tu comprends un petit peu mieux. Revêtez-vous, habillez-vous de cette bassesse de servir les uns les autres et de voir les autres comme plus élevés que moi-même, comme Christ le fait. Et Pierre l'avait vécu. Et quand il déclare ça, tu comprends que Pierre se rappelle ce qu'il a vécu. Et tout à coup, il y a un sens beaucoup plus riche à lire ses paroles avec ce qu'il vient de décrire. L'humilité, vous savez, quatre déclarations que je veux juste faire dans ce point-ci. Bref, l'humilité vient spontanément ici, premièrement. Elle n'est pas orchestrée d'avance. Il y a une opportunité qui se présente où on arrive dans une salle, il n'y a pas d'esclave qui est là pour laver les pieds. Et là, il faut se laver les pieds. Et spontanément, Jésus décide de faire cet acte humble, qu'il prend la balle au bon. Voilà une opportunité et il le fait. Et souvent, vous savez, l'humilité, là, elle n'a pas des grosses annonces avant de se déployer puis d'apparaître. L'humilité souvent se manifeste dans des gestes simples du quotidien, comme Jésus le fait, sans grand déploiement, sans grande avance, et elle se saisit spontanément des opportunités qui se présentent. Ce n'est pas « Ah, OK, mardi matin, je vais me présenter à tel endroit, acte d'humilité. » Mercredi soir, j'ai telle activité, cultiver l'humilité. L'humilité est une manifestation de l'amour et elle saisit l'opportunité du quotidien spontanément, sans éclat, sans annonce, sans précurseur, rien. Et c'est comme ça que Jésus ici agit. Deuxièmement, l'humilité accepte de recevoir sans honte. Et là, la réaction de Pierre nous montre ici ça, qu'il n'est pas dans l'humilité, lui. Lui résiste. Hein? Il est dans ceux qui se débattent pour qui est le plus grand parmi nous. Et là, pour lui, d'accueillir l'humilité, il y a un blocage. Là. Il y a un blocage terrible. Et l'humilité accepte de recevoir sans honte, au verset 8. Ça a dû prendre un dialogue avec Jésus pour l'avertir. Et comme je l'ai mentionné tantôt pour le verset 8, ces paroles signifient donc que les paroles de Jésus qui parlent de lavement, d'avoir une part avec lui, il dit, et c'est un vieil auteur qui a écrit ceci il y a plus de 100 ans dans la Bible à noter, je trouvais que ça résumait bien l'idée ici. Ces paroles signifient donc, si je ne te purifie de ta volonté propre, de tes péchés, de ta corruption naturelle, tu ne prendras pas de part avec moi. Jésus aime à s'élever au-dessus d'un objet actuel, extérieur, à une pensée plus élevée et plus intime. Et comme dans son entretien avec la femme samaritaine sur l'eau, qui peut donner la vie à l'image de l'Esprit de Dieu, de même ici, son action qui devait être avant tout pour les disciples un exemple d'humilité devient l'image aussi de leur propre purification spirituelle qui s'opère et qui les conduit au salut. Et donc, il y a une image que Jésus prend comme balle au bon ici. Troisièmement, l'humilité n'est pas un signe de faiblesse, Jésus est en train de montrer. Si le Créateur le fait, ce n'est pas de la faiblesse de l'humilité, de se mettre en bassesse. Au contraire, c'est une manifestation de savoir notre identité, de notre sécurité en Dieu. Et tout à coup, je peux faire une bassesse parce que ce n'est pas ça qui me définit. C'est une conséquence de qui je suis et comment mon identité, elle est sécure en lui. Et tout à coup, j'ai pu être motivé par l'apparence de mon action plutôt que de servir l'autre, humblement, naturellement, le voyant plus élevé, à saisir spontanément. Mais si j'ai l'impression que l'humilité, c'est justement quelque chose qui montre de la faiblesse, et c'est souvent ce qu'on voit en société, hein? On fait le tough parce qu'on veut montrer de la faiblesse. Pensant que l'humilité manifeste la faiblesse, Jésus montre que c'est absolument le contraire. Et c'est pour ça que Pierre réagit, entre autres, ne comprenant pas du tout ce que Jésus est en train de faire. Je vous cite ici M. Swindoll, un vieux prédicateur. Il continue à prêcher, M. Swindoll, à peu près 88 ans. Je pense qu'il prenait sa retraite cette année. Il a commencé une église à la mi-soixantaine pour son projet de retraite. Un homme formidable, mais quand il prêche, c'est un papa. C'est un grand papa. Un ton de grand papa. Et donc, extrêmement édifiant. C'est un des prédicateurs que j'apprécie le plus en vieillissant. Et il résume la pensée ici suivante en disant ceci. Jean nous aide à saisir les distinctions subtiles, mais importantes, en utilisant deux verbes différents ici pour la question de baigner et de laver le corps. Je vous l'expliquais tantôt. L'idée suivante est à la fois d'être baigné. On est baigné pour toujours. Habituellement, les gens se baignent dans l'intimité de leur foyer avant de se rendre à un dîner, mais leurs pieds restent salis par la marche des rues poussiéreuses en chemin vers la maison de l'autre. À leur arrivée, il avait besoin d'être lavé, mais simplement de se faire essuyer les pieds et non de se laver au complet. Sur le plan spirituel, Dieu nous baigne lors de notre conversion, rendant nos péchés écarlates, blancs comme la neige. Mais en marchant dans les rues poussiéreuses de la vie, nous ramassons, nous aussi, une partie de la crasse et de la saleté de ce monde. Ce dont nous avons besoin dans ce cas, ce n'est pas d'un autre bain complet, mais simplement d'un nettoyage quotidien pour notre marche. Et Jean nous invite à faire ça, n'est-ce pas, dans 1 Jean, chapitre 1, il dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. » Cette confession, chaque jour, à garder notre relation avec Dieu. Mais là, certains pourraient dire « Ouais, mais je suis pardonné. Une fois pardonné, c'est fini. » Alors, pourquoi l'entretien de la confession quotidienne, certains diront. Un autre prédicateur que j'apprécie le résumé ainsi, tellement bien que je vous lis tout simplement. Pourquoi est-il possible, si important, de garder nos pieds propres au quotidien? Parce que si nous sommes souillés, nous ne jouirons pas de la communion pleine en Jésus-Christ quotidien. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Une part en grec renvoie à participation, au fait d'avoir une part dans quelque chose ou avec quelqu'un. Lorsque Dieu nous lave complètement dans le salut, il initie notre union avec Christ à la base de notre foi. C'est une relation établie qui ne changera jamais. Le verbe d'être baigné parle de cela, n'est-ce pas? Quant à notre communion avec Christ au quotidien, elle dépend de notre volonté de se garder propre des souillures du monde quotidiennement, d'entretenir ce lavage des pieds. Si nous autorisons le péché non confessé dans notre vie, nous entravons notre marche avec le Seigneur. Tout comme une relation, vous savez, avec quelqu'un qu'on aime et qu'on a fait une offense, puis qu'on l'ignore, même si on est embarqué dans une relation d'amour et un engagement mutuel, on doit entretenir la relation pour jouir au quotidien de cette relation-là. Sinon, il y a de l'amertume dans la relation. « On est marié, mais finalement, il n'y a pas vraiment de relation parce qu'on ne l'entretient pas au quotidien. » Et qu'est-ce qu'on vit? Aucune satisfaction. Aucune satisfaction. Il y a un entretien de la relation dans nos mœurs qu'on doit faire au quotidien. Et avec Dieu, la même chose. Et ça passe par la confession. Et finalement, une dernière affirmation sur l'humilité. L'humilité n'a pas de favoritisme. Et pourquoi je dis ça? Qui Jésus a lavé les pieds? Juste 11 des 12 disciples? Vous voulez dire qu'il a lavé les pieds du sale? Du sale traître? Aucune distinction? Et nous autres, on aurait fait, ouais, lave tes pieds. Judas, tu vas être le dernier, puis il m'a l'oublié rendu à la fin, tu vas voir. On n'aurait pas été capable, nous autres, de se cacher de là. Hein? Jésus, sans aucun favoritisme, lave les disciples, les 12, sans distinction, même le détestable qui venait de chialer sur l'argent dépensé, qui volait dans la bourse, qui là avait comploté un plan, que le diable avait pris son esprit et qui est là sur le bord de le trahir et il lave les pieds encore en train de lui tendre la perche de l'amour de Dieu. Sachez que Judas était aimé. Judas était aimé, mais son cœur était pris par l'avarice, par l'argent. mais ce n'est pas les chances de se repentir qui lui ont pas été offertes. Et Jésus va l'aimer d'une façon particulière ici, et l'humilité, donc, ne fait pas de favoritisme. Donc, les quatre déclarations, je vous les répète, que j'ai mentionnées. L'humilité vient sans annonce, spontanément. Deuxièmement, l'humilité accepte de recevoir sans honte. Troisièmement, l'humilité n'est pas un signe de faiblesse. Et finalement, l'humilité ne fait pas de favoritisme. Et c'est ce qui est manifesté dans l'action de Jésus. Et on termine avec le dernier point. Donc, une fois lavé par Jésus, les disciples ne peuvent plus vivre de la même manière. Et d'où maintenant l'instruction que Jésus donne de suivre son exemple. Jésus transforme celui qui lave. Alors, le danger serait de, dorénavant, je vais agir humblement. C'est pas ça qu'il est en train de dire. C'est suite à avoir été aimé, c'est suite à avoir été lavé que tout à coup, j'aime et je sers les autres. Et trop souvent, on va lire des illustrations sur comment c'est bon de servir les autres. Et là, on donne des illustrations de monsieur, madame, tout le monde, qui fait un acte de bienveillance à la communauté, etc. Puis c'est ça qu'il faut suivre. Mais c'est pas ça que le texte dit. Le service qui émane ici est celui d'avoir été aimé et celui d'avoir été lavé et qui déborde dans une action de disciple, de servir les uns les autres, d'aimer et de laver. Je vous lis ces derniers versets, alors qu'on atterrit notre message ce matin. Verset 12. Hein? Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son vêtement et se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous? » Et là, ils n'avaient pas rien parlé, ils ont mangé. Après, là, il lance la question pour maintenant un enseignement après. Vous m'appelez maître et seigneur. Vous m'appelez donc maître, ici, le mot qui est utilisé, c'est maître enseignant, donc docteur de la loi ou maître enseignant, OK, littéralement, et seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns les autres. Vous devez. Ici, le mot, c'est vraiment le mot qu'on utilise souvent pour une dette. Si j'ai vraiment vécu ça, il devient naturel que j'ai une dette de service parce que j'ai reçu aussi. Hein? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi aux autres. J'ai reçu le pardon. La réponse, c'est que si j'ai été enlevé ma dette, je dois aussi, moi, enlever la dette des autres envers moi. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Car c'est un exemple. Ah, OK! Il n'y a pas écrit, c'est une prescription que je vous donne. Il dit, c'est un exemple, une illustration, une image que je vous ai donnée. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si c'est bon pour moi, c'est bon pour vous. C'est ça qu'il est en train de dire ici au verset 16. Sachant cela, et là, souligner aussi le mot « sachant », sachant cela, vous serez heureux si du moins vous le mettez en pratique. Je ne parle pas pour vous tous, je connais ceux que j'ai choisis. Mais qu'ainsi s'accomplisse l'Écriture, celui qui mangeait le pain avec moi, contre moi a levé le talon. Et là, Jésus ici va citer le psaume 41, verset 10, qui fait allusion à une trahison que David a vécue avec Achitophel, qui lui aussi, drôle d'analogie, mais qui aussi s'est pendu après Achitophel. Mais c'est une longue histoire, je n'ai pas le temps de vous expliquer ici ce matin, vous pourrez les voir vous-même. Mais il utilise un verset qui parle de la trahison que David a vécue et tout à coup qu'il l'applique au Messie lui-même, loin de l'Éternel, lui aussi traduit par l'un des siens proches. Je vous le dis à présent, avant que l'événement n'arrive, afin que lorsqu'il arrivera, vous croyez que je suis. En vérité, je vous le dis, recevoir celui que j'enverrai, je vous le dis, recevoir celui que j'enverrai, c'est me recevoir moi-même. Et me recevoir, c'est aussi recevoir celui qui m'a envoyé. Donc, de recevoir Jésus, c'est de recevoir le Père céleste, le Père créateur. Donc, Jésus transforme ceux qui lavent. Il nous donne ici le résultat de l'enseignement, si elle est saisie, qu'on a reçu l'amour, qu'on a reçu le lavement, qu'est-ce qui se produit naturellement à la suite de cette expérience-là dans les versets qu'on vient de lire? Et là, ici, Jésus donne le motif de son exemple. Je vais montrer ça pour vous donner un exemple, pas pour que vous fassiez une nouvelle prescription, une nouvelle tradition. C'est un exemple, une image qui vaut 1000 mots et une image puissante que Jésus nous donne ici dans ce qu'il fait avec ses disciples. Cet amour vient d'une humilité qui n'a ni culture et ni la nôtre ne connaît, si ce n'est que par Jésus-Christ seul. Jésus-Christ renverse l'ordre social et les hiérarchies de ce qui est grand et petit. Et c'est pour ça qu'il dit « Je suis venu pour vous servir, non pour être servi ». Et chacun des évangiles le souligne. Et donc, dans les derniers versets, ce qui est remarquable, c'est l'application. Remarquez bien ici les versets 16 jusqu'à 20. Il nous donne ici différentes implications de mettre ceci en pratique si on le saisit bien. De un, le bonheur. Verset 16. Le bonheur. Il dit, si vous mettez ceci, si tu le sais dans ta tête, puis tu ne le mets pas en pratique, ça ne donnera pas grand-chose. Mais si tu le saisis vraiment, ça va changer quelque chose dans ta vie. Un prédicateur racontait l'histoire qui avait été dans une retraite pastorale. Et dans cette retraite pastorale, j'oublie ce qui s'était passé, mais peut-être un lavement des pieds, quelque chose de symbolique qui s'était passé. Et ils avaient, ou peut-être c'était l'enseignement, mais il était reparti avec une belle petite serviette décorative, avec un effigie qui rappelait ici le service de Jésus qui avait lavé les pieds. Qu'est-ce qui était brodé dessus, je ne sais pas, mais il l'avait gardé. Puis quand il est retourné à la maison, à son bureau, il l'a affiché sur le mur pour se rappeler. Parce qu'il disait, je sais, mais je veux m'en rappeler. Là. Puis il l'avait mis là comme un rappel de ce que Jésus a fait. Puis ça a été là pendant des années. Puis un bonjour, bien, comme ça arrive dans bien des foyers, un enfant a fait un geste de sacrilège. Il a pris à guenille à papa, puis il a lavé son char avec. Pour lui, ça avait une grande signification, mais pour elle, c'était un linge. Puis elle l'a lavé, puis après ça, il l'a pris, il l'a chicané, évidemment. Elle a lavé son char, c'est un adulte, là. Mais il était déçu, évidemment. Puis là, il a tout lavé, puis il a enlevé les taches de ce que le armor all autour des pneus, puis les taches dessus. Le mieux qu'il pouvait, mais évidemment, était plus immaculé. Son beau souvenir. Et lui est passé dans sa tête une réflexion qui a changé sa perspective. Et il la partage, et je vous la lis à l'instant. Il dit ceci. Tout d'abord, j'étais fâché qu'on ait utilisé mon souvenir pour laver les enjoliveurs et le pare-choc de ma fille. Puis par la suite, j'ai commencé à voir cette serviette comme une image de moi-même. Et cela m'a amené à me poser quelques questions sur moi-même. Quand il s'agit de servir les autres, est-ce que je me réserve pour des belles occasions spéciales au lieu de faire les tâches ordinaires du quotidien? C'est juste une guenille pour les belles occasions, tu sais. C'est ça qu'il disait. Lorsque Jésus a lavé et essuyé les pieds de ses disciples, sa serviette n'a-t-elle pas été salie? C'est correct qu'une serviette qui est sale, ça communique quelque chose. C'est quoi mon problème? Il est en train de s'analyser lui-même. À quoi sert une serviette pour décorer et pour démontrer ou pour laver et être salie? Et Jésus dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur, le Maître. Est-ce que Seigneur, est-ce que Jésus est ton Seigneur? Est-ce qu'il est ton Maître enseignant? Est-ce qu'il a la Seigneurie de ta vie, Jésus? Moi, le Maître et Seigneur, vous devez, vous aussi, laver les pieds les uns les autres, verset 14. Ma petite serviette sert maintenant à me rappeler qu'en me protégeant, en ne me touchant pas, excusez-moi, on ne me touchera pas, mais je serai complètement inutile au service du Seigneur, comme ma belle serviette accrochée, immaculée. Les vrais serviteurs, vous savez, ils se salissent tous les jours. Les décorations restent propres, mais les disciples se salissent. Amen? Je le répète, les décorations, ça reste propre, mais les disciples de Jésus se salissent. C'est plus dur de dire « Amen » à ça, hein? Parce que ça, c'est dérangeant. Ça, c'est dérangeant. Mais n'est-ce pas un beau résumé de ce que Jésus fait dans notre cœur, de ce qu'il transforme? Donc, Service amène le bonheur, nous dit le verset. Heureux celui, donc une pleine satisfaction. Non seulement ça, mais en faisant ça, il accomplit une prophétie, verset 18. Il accomplit la parole de Dieu, prophétisée d'avance. Il fait une analogie ici importante et donc extrêmement omniscient et montrant son souci de la parole de Dieu. Ensuite, on voit aussi son but, la foi. Il dit, je te dis ça d'avance parce que quand vous allez voir ce qui va se passer dans les prochains jours, et vous allez avoir des doutes, vous allez pouvoir vous rabattre sur tout ce que je vous ai dit là, ce soir-là, chapitre 13 à 17. Puis si vous vous rappelez de tout ça, vous allez avoir tout ce qu'il nous faut pour passer à travers l'épreuve qui s'en vient, les doutes, l'isolement, la peur, le souci du jugement des autres, qu'est-ce qui arrive de mon avenir. Si vous vous rappelez de tout ça, là, tu vas avoir tout ce qu'il te faut pour passer à travers avec foi, puis croire. Et donc ici, son souci est encore pour vous et moi, continuellement, fortifier notre foi, si vous avez déjà la foi. Et si vous n'avez pas la foi, recevoir Jésus par la foi ce matin. Allez pas servir. Si vous n'avez pas la foi en Jésus, vous allez servir pour vous-même. Vous allez être humble pour apparaître humble, pour paraître humble. Ça, paraître humble, ce n'est pas d'être humble. Est-ce que vous comprenez la différence? Et Jésus produit l'humilité en nous comme un état d'être qui est un subséquent à saisir et recevoir l'amour. Et la dernière chose, en plus de recevoir Jésus, quand tu reçois Jésus, bien, tu reçois au verset 20 le Créateur lui-même. Je termine avec l'application pratique de tout ça ici. Je récapitule l'ordre des choses, OK? L'ordre chronologique est vraiment important. Si on inverse l'ordre, on fait la religion, OK? Fait que c'est bien ici la suite. Jésus aime, premièrement. Jésus s'abaisse, ensuite. L'amour a produit l'abaissement. Jésus lave, donc l'action a procédé après. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pierre résiste. Ça, c'est vous et moi. On résiste. C'est dur à accepter le message de l'Évangile. C'est dur d'accepter un lavement aussi humble. C'est dur d'accepter un lavement qui doit reconnaître que j'en ai besoin. Un lavement qui doit reconnaître que je ne suis pas capable de me laver moi-même. Il y a une résistance, mais Pierre va recevoir. Et parce qu'il reçoit, bien, tout à coup, qu'est-ce qui se passe après? Jésus transforme. Et parce qu'il transforme, on peut pratiquer les versets 15, 16, 17, 18, 19 et les vivre, la joie que produit le service, parce que ça découle, ce n'est pas de la religion, c'est un débordement. Et les disciples servent. Ça, c'est l'ordre dans lequel se passe l'action du texte et dans lequel se découle et s'inscrit la conversion également, le changement de vie que Dieu cause et finalement, ce qui a comme résultat dans ma vie, je ne vis pas comme avant et c'est un état d'être que Dieu fait en moi. Une transformation de mon caractère qui regarde plutôt les autres de haut. Et tout à coup, quand je suis en Christ, je regarde les autres comme haut. C'est tout un monde de différence. Pourquoi? Parce que mon Christ, mon Sauveur, a regardé les hommes avec valeur. Et donc, je suis invité à la même chose. Le Créateur le manifeste, cet amour en Jésus-Christ. Quelques pistes de réflexion en terminant aussi, qui procèdent de ces réflexions et qui peuvent nous aider dans notre réflexion à mettre en pratique. Vous savez, avant d'être humble et de servir comme Jésus, je dois passer par un processus. Et ce processus et ce ressenti, c'est le suivant, savoir que j'ai besoin de lui. Savoir que je suis sale et que j'ai besoin d'être lavé. Passer par un processus, oui, de résistance et éventuellement et ultimement accepter l'amour de Jésus. C'est par là que se passe le processus vers la conversion. Maintenant, quelques applications. Certains veulent servir Jésus sans être vulnérables devant lui. J'aimerais vous dire qu'il est impossible de servir vraiment sans être vulnérable. Parce que c'est de l'amour de Dieu que se produit le service. Et cet amour-là nous rend vulnérables. Elle doit reconnaître notre état et accepter humblement cet acte de Dieu de venir vers nous. Et donc, je ne peux pas servir Dieu réellement comme sous-produit de la foi sans vivre de la vulnérabilité. Si je suis dans la protection de moi-même, je ne peux pas servir les autres. Si je suis dans la protection de mon image, je ne pourrai pas servir les autres. Il y aura toujours un obstacle. Si je dois me protéger de l'abus des autres, je ne ferai jamais rien. Parce que c'est un risque beaucoup trop élevé de me mettre à risque d'aider quelqu'un qui profiterait de moi, de donner à quelqu'un quelque chose qui pourrait me mentir et mal utiliser, de faire confiance à quelqu'un avec un secret et qui pourrait me trahir. Fait que si je me protège, je ne peux pas entrer dans une relation vulnérable. Et donc, si l'amour de Jésus ne me transforme pas et ne crée pas en moi de l'humilité, je crée de la fausse humilité pour essayer de paraître quelque chose que je ne suis pas. Et là, tu vas être malheureux dans la religion et tu vas être déçu. Et trop souvent, on passe des cycles comme ça. Mais vous savez, il n'est pas possible de servir Jésus vraiment dans l'esprit du texte ici sans répondre avec vulnérabilité à cet amour. Deuxièmement, nous résistons souvent à être lavés. Nous résistons à être lavés aujourd'hui, cela ressemble à cacher nos luttes, hein? Vouloir paraître fort, que moi je ne demande pas de conseils, c'est les autres qui demandent des conseils envers moi, hein? Mériter l'approbation des autres, refuser l'aide, éviter la repentance profonde. On résiste nous aussi, naturellement encore comme Pierre, au lavement. Au lavement ultime et au lavement quotidien de l'entretien. Il y a cette résistance qui est là en dedans de nous. Cette aide qui veut se débrouiller tout seul. Et j'ai besoin de reconnaître chaque jour, tout comme j'ai entré dans le royaume de Dieu comme fils de Dieu en reconnaissant que je ne peux rien faire et que j'ai besoin désespérément de lui, je dois renouveler mes vœux chaque matin. Seigneur, je le vois encore, j'ai besoin de toi et je n'arriverai pas aujourd'hui à vivre pour toi sans toi. J'ai besoin de toi. Notre résistance ici est une image qui doit être continuellement en lutte chaque jour et qu'on doit remettre au Seigneur. Certains admirent Jésus sans lui abandonner leurs pieds sales. Et j'oserais demander ce matin, est-ce que tu as abandonné à Jésus tes pieds sales? Tu as des sales pieds. Des fois, on a une sale tête même aussi, là. Hein? Mais plus que ça, on porte la saleté. Est-ce que j'ai donné ma saleté à Jésus ou je continue encore à essayer de laver mes pieds, moi-même, de paraître propre, d'essayer de sentir propre, parce que Dieu sait qu'on peut en mettre du parfum aujourd'hui, hein? Mais ça ne veut pas dire que tu es propre. Est-ce que tu as encore les pieds sales et tu résistes de les donner à Jésus ce matin? On accepte qu'il est le roi couronné, on accepte les miracles, on accepte son enseignement, mais on n'accepte pas de finalement s'asseoir et laisser nos pieds entre ses mains pour être lavés par lui. Et peut-être ce matin, c'est ça que le Seigneur t'invite à faire. Lui donner tes pieds pour les laver et d'arrêter de résister. Pour un péché, pour la vie éternelle, je ne sais pas pour quel combat, pour quelle lutte que tu résistes. Le lavage des pieds est une annonce visible, vous savez, de la croix, de Jésus qui s'abaisse, prend notre saleté, servir jusqu'au bout et qui purifie ceux qui se lavent en lui. C'est tellement une belle image, ce lavement des pieds du salut en Jésus-Christ et qui nous donne comme image et qui nous donne mille mots pour décrire ce qu'il fait en nous. J'ai invité l'équipe de louanges à s'approcher alors qu'on va terminer à l'instant dans les chants, dans la prière. Je vous invite avec moi à prier le Seigneur, à lui répondre ce matin au lavement qu'il t'offre, qu'il tend. Alors qu'on va chanter et prier, que nos cœurs puissent répondre à Jésus. Prions ensemble. Père Céleste, on veut reconnaître que cette histoire, on ne la saisit pas complètement. En tout cas, pour moi, je réalise, Seigneur, que j'ai cheminé cette semaine, mais j'ai encore tellement à comprendre, Seigneur, de cette histoire qui, dans ma nature pécheresse naturelle, Seigneur, c'est ça. J'avoue, Seigneur, que ça me dépasse. Je le sais dans ma tête, je le sais quand je le lis. J'essaie de l'expliquer pour mieux m'expliquer à moi-même, Seigneur, mais il y a naturellement chez moi et chez nous, je crois, Seigneur, une résistance à cette humilité dévastatrice que Jésus manifeste. Ah, Seigneur, que nos cœurs aient cheminé ce matin un peu plus à saisir ton amour pour nous. Un amour si grand, si inconditionnel, si coûteux, un amour d'une préciosité indescriptible, Seigneur. Aide-moi à la saisir un peu plus ce matin, s'il vous plaît. J'ai besoin de m'imprégner de ton amour. Je résiste à l'amour, Seigneur, ça fait peur, l'amour. Je pourrais être rejeté. Je pourrais être déçu. Ça pourrait ne pas correspondre à mes attentes. Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que ça veut dire pour telle affaire dans ma vie, puis telle affaire dans ma vie, puis telle priorité? Ça va-tu prendre le bord parce que je reçois cet amour-là, Seigneur? Toi, tu veux tout enlever, tu veux tout. Et là, Seigneur, on te regarde comme quelqu'un qui va juste enlever des choses dans notre vie, mais on ne saisit pas l'amour. On résiste, on a des peurs, Seigneur. Et même en ayant reçu initialement cet amour-là, on continue après ça avec des luttes, Seigneur, à résister à cet amour qui lave mes pieds au quotidien. Oh, Seigneur, lave mes pieds sales, s'il vous plaît. Aide-moi à l'accepter. Aide-moi à juste l'apprécier, à te regarder le faire, puis à être émerveillé ce matin. D'apprécier cet amour sans mérite, cet amour démesuré. Et de savoir que c'est pas juste toi, c'est toute la personne de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit, qui m'aime, qui caresse mes pieds, qui les rend toutes propres, qui enlève la senteur, qui enlève les bobos, qui met de la crème, qui rend ce pied-là beau. Ah, Seigneur, il y a juste toi pour faire ça dans ma vie, parce que ce pied-là, ça représente tellement ma vie. Oh, Seigneur, ce matin, il y a peut-être une inquiétude, un souci que je garde pour moi, que je veux m'arranger tout seul. Et ce matin, je veux te le donner. Un souci familial, un souci au travail, une inquiétude, une aspiration, je veux te le donner. Lave ces saletés, Seigneur, que j'essaie de m'arranger tout seul avec. Je te demande pardon de résister. Merci de ta grâce de m'accueillir comme tu as fait avec Pierre. Tu n'as pas été dur. Merci de m'accueillir comme ça. Ça me touche. Merci d'être patient, de cheminer, parce que je sais que je ne suis pas aussi vite que je voudrais l'être pour toi, Seigneur. Mais toi, tu ne regardes pas la performance. Tu veux voir mon cœur se transformer parce que tu l'aimes. Tu n'as pas besoin de plus de service, mais tu y prends du plaisir quand même. Oh Seigneur, que nos cœurs soient plus près du tien ce matin, imprégnés de ton amour. Et nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.